Economica, Anne Isla,
Jacques Lavergne, bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Allez, on va respecter la tradition, on commence toujours par la citation. Nous sommes des créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons à adorer les causes. Alors d'habitude, j'interroge pour savoir qui est-ce, mais vous le savez, Anne, parce que vous l'avez sous les yeux, c'est d'un monsieur qui est fort âgé, puisqu'il est né en 1627 à Dijon et décédé en 1704 à Paris. C'est monsieur Bossuet, homme d'église, évêque, prédicateur, écrivain. Voilà, nous sommes des créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons à adorer les causes. Donc vous remarquerez que c'est toujours vrai aujourd'hui,
ah même oui, après. C'est toujours vrai, ouais, nous adorons ce qui nous fait mal.
Voilà, tout à fait. Alors, ordre du jour, comme diraient les fonctionnaires en réunion. Donc aujourd'hui, nous allons parler du capitalisme, mais de bien d'autres choses encore, vous l'allez voir. Et pour commencer, on va commencer par mes brèves. Qui n'en sont pas aujourd'hui, puisque ce sera une brève unique. Donc, effectivement, comme elle sera un peu longue, ce ne sera plus une brève. Et une brève qui est née de l'observation d'une situation, de lecture, de beaucoup d'interrogations. Donc, je me suis lancé à réfléchir. Mais comme Anne est là, elle va me corriger ou rebondir sur mes développements. Alors, un mot que nous avions relégué depuis longtemps au cimetière des mauvais souvenirs, un mot qui fait un retour en force, je veux bien sûr parler de celui d'inflation. Son retour nous renvoie brutalement 40 ans en arrière, en des temps que beaucoup n'ont pas connus. Un retour que l'on peut attribuer vraisemblablement à une guerre en Ukraine qui provoque une pénurie relative de certains produits et donc une hausse des prix. Et aussi certainement un monde en perpétuel surchauffe, surtout depuis la presque fin du Covid, presque fin puisqu'il semblerait que nous ayons une énième vague, monde qui est agité par une demande toujours croissante. Mais pas que. Si l'on en croit les chiffres, l'inflation serait de 8,3% aux Amériques, de 7,4% dans la zone euro, mais seulement de 4,8% en France. Alors on pourrait s'en féliciter si l'on ne se doutait pas que ce chiffre, qui pourrait paraître heureux en première analyse, n'est dû qu'au blocage des prix de l'énergie par l'État, ou pour le dire autrement, par le fait que ce sont les finances publiques qui assument le différentiel de prix. Politique qui accroît donc la dette publique, nos enfants qui devront l'assumer un jour vont adorer. Ils vont certainement nous maudire dans quelques années. Sans parler bien sûr du chèque alimentaire mensuel au profit de foyers modestes, voire du triplement de la prime Macron qui va augmenter l'addition. Mais n'y aurait-il pas des causes plus structurelles dans la crise actuelle, outre les événements cités plus haut, auxquelles on peut joindre la déformation de la structure de la demande mondiale des services vers les biens ? C'est en tout cas ce que soutient l'économiste Patrick Artus, qui pointe le vieillissement démographique. Un retraité, ça consomme, mais ça ne produit pas beaucoup et ça déséquilibre production et consommation, donc ça générerait, d'après M. Artus, de l'inflation. Mais aussi la transition énergétique, qu'il considère comme source d'inflation, ce que l'électricité dite entre guillemets verte, coûte plus cher à produire que la brune, alors, y compris produite avec le charbon, et que la transition va imposer des investissements énormes qui auront nécessairement un impact sur les prix. Cette inflation à laquelle nous ne sommes pas préparés va-t-elle avoir pour conséquence une remontée des taux d'intérêt ? Question, donc Anne va répondre, je suis sûr, tout à l'heure. S'il venait ces taux d'intérêt à grimper de 3%, cela provoquerait mécaniquement une augmentation des intérêts de la dette française de 90 milliards par an, excusez du peu, donc un appauvrissement de l'État et une baisse de la demande en général. Est-ce à dire que cette inflation, largement importée au début, exogène, va se transmettre à tous les prix, salaires compris, au risque d'un emballement général ? La politique poursuivie par le gouvernement est-elle la bonne ? Ne vaudrait-il pas mieux faire en sorte qu'il y ait plus d'actifs sur le marché du travail? Et donc ça implique, alors on peut toujours faire des enfants, mais là il faudrait les faire très vite, alors, soit de recourir à une immigration massive, soit de repousser l'âge de la retraite, il y en a qui en parlent. Des solutions, bien sûr, vous le savez, très marquées politiquement. Également, ne faudrait-il pas privilégier une coordination des États européens afin de gérer collectivement ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui les raretés, plutôt que de voir chaque État jouer perso et se débrouiller dans son coin. Ainsi, on pourrait également développer plus rapidement des énergies décarbonées pour contrer la décroissance des énergies fossiles. Mais l'on sait aussi que toutes les manettes ne sont pas entre les mains des dirigeants européens, encore moins du seul président de la République française. La guerre en Ukraine menée par le boucher Poutine, qui bouleverse profondément la planète, en est un exemple. La Chine en récession économique du fait de sa politique zéro Covid en est un autre, ce ne sont certainement pas les seuls. Bref, on se serait bien passé après les difficultés rencontrées depuis 2 ans de cette fichue inflation. Ouvrez les guillemets, inflation, impôt pour les pauvres, prime pour les riches, comme l'avait qualifié un certain François Mitterrand. Mais ne jouons pas trop les pleureuses, nous pourrions être ukrainiens, ou yéménites, ou afghans, ou même américains, russes ou chinois, pourquoi pas, ou, la liste serait trop longue, donc je vais arrêter là. Voilà ma vision et mes questions, Anne, de cette inflation. J'imagine que vous avez plein de choses à commenter.
Oui, je vais rebondir, je ne vais pas corriger, je vais rebondir, parce qu'en économie, on peut avoir des idées différentes. Alors, si l'on en
croit... Moi, j'ai plus de questions que d'idées. Hein. Vous l'avez compris, je m'en pose beaucoup et je ne suis certainement pas le seul à m'en poser beaucoup.
Oui, c'est vrai. Et alors, si l'on en croit les chiffres déjà, mais peut-on croire les chiffres? Moi, je suis très, 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 très méfiante envers les chiffres. Donc, on parle d'inflation. Bien sûr, on parle d'inflation des prix. On ne parle pas de l'inflation du bien-être ou de l'inflation du bonheur ou de l'inflation de la joie de vivre. Hein. On parle de l'inflation des prix. Alors, petite remarque, on peut faire des politiques publiques, par exemple bloquer les prix, comme vous en avez parlé, sans augmenter la dette. Il suffit d'augmenter les recettes. Et là, on a un stock de recettes que l'on pourrait avoir si on récupérait toute l'optimisation fiscale ou tout ce qui part dans les paradis fiscaux, ou si on faisait un peu plus de tranches pour les impôts. Bon, ça, c'est quelque chose que je répète en longueur d'émission. Vous devez commencer à en avoir marre. Le budget de l'État,
non,
ça n'est
pas... Non, mais on partage cet avis. Hein.
Le budget de l'État, ce n'est pas que les dépenses, c'est aussi les recettes. Et les recettes, elles ne sont pas bloquées par une loi naturelle ou par je ne sais pas quoi. On peut les augmenter. La transition écologique, quant à elle, elle entraînera plus de dépenses pour l'État, peut-être, mais elle permettra aussi de créer plus d'emplois. Et la transition écologique passe aussi par une baisse des inégalités. Il suffit de lire le dernier rapport du GIEC. Et une baisse des inégalités, c'est diminuer la pauvreté, certes, mais c'est aussi peut-être interdire certaines choses, comme les super-yachts, par exemple, qui détruisent les fonds marins, les voyages dans l'espace, seulement pour son propre agrément, la multiplication des voyages en avion, etc. Bref, diminuer l'indécence de l'hyper-richesse. Alors, on peut bien sûr faire porter le chapeau au monde du travail. C'est la solution systématique depuis les années 1980. Et une des idées les plus mauvaises dans cette mouvance, eh bien, c'est retarder l'âge de la retraite. On culpabilise les individus et on les fait travailler plus, alors que bien d'autres solutions existent. Et puis, l'inflation est-elle vraiment un problème quand les salaires suivent? Ça, c'est une question que je pose. C'est-à-dire quand le pouvoir d'achat est maintenu, car dans ce cas, ce n'est plus un impôt pour les pauvres, comme disait Mitterrand. L'inflation, c'est l'euthanasie du rentier, comme disait Keynes, si on met une politique économique adéquate, et c'est sans doute pour cela qu'on en fait tout un plat.
Voilà, ben, les commentaires datent sur cette inflation qui, si je la comprends bien, finalement n'est pas quelque chose de terrible, hein. C'est quelque chose que l'on peut contrer, il y a des solutions. Alors ce sont des solutions qu'on appelle, avant même qu'il y ait inflation, qu'on appelait de nos voeux. On n'a pas vraiment jusque-là été entendu.
Non.
C'est une espèce de ruissellement auquel vous appelez, mais en ne vous abreuvant pas aux mêmes sources,
voilà.
Si j'ai bien compris.
C'est plutôt un mouvement d'osmose,
voilà.
De ruissellement.
Alors, passons au corps du sujet, au corps de l'émission, au morceau de bravoure, si j'ose dire, Anne. On va parler de capitalisme. On se posait la question de qu'est-ce que c'est que ce capitalisme et comment ça marche, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. qu'on critique aussi beaucoup, parce qu'à peu près aujourd'hui, c'est le seul système qui s'impose sur la planète. Nous savons où il nous a menés, il va certainement nous mener encore plus loin et dans le mauvais sens vraisemblablement, mais ça, vous allez nous le dire. Alors Anne, bon, ce capitalisme, c'est une fatalité ou pas? Dites-nous d'abord comment il fonctionne et qu'est-ce que c'est.
Ah oui, avant les vacances, on s'est dit une réflexion sur un gros morceau d'économie.
Très gros morceau.
Comme qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Ça s'imposait avant de partir à la plage. Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Eh bien, le capitalisme, c'est tout simplement un système économique qui repose sur l'accumulation du capital. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans. Il suppose donc une croissance économique continue. On est dans des systèmes capitalistes qui se sont petit à petit développés à la sortie du féodalisme, lorsque on a commencé le mouvement des enclosures dont on a parlé dans une des émissions, c'est-à-dire ce durcissement de la propriété sur les terres, durcissement de la propriété qui a entraîné aussi une suppression des droits fondamentaux, des communs, liés à cette propriété commune, enfin ces communs plutôt, les droits de pacage, les droits de glanage, les droits de ramasser du bois mort, etc. Et en faisant cela, eh bien, on a changé les rapports sociaux et petit à petit, on est passé dans un système capitaliste. Alors tout ça pour dire que le capitalisme n'a pas toujours existé et donc qu'il ne va pas toujours exister non plus. Ah. C'est un système parmi d'autres.
Voilà, mais qui pour l'instant nous enferme comme une chape de plomb. Mais bon, même pour l'observateur peu averti que je suis, j'ai quand même l'impression qu'il y a plusieurs formes de capitalisme. Il n'est pas monolithique, ce système économique.
Non, ou bien sûr, il y a plusieurs formes de capitalisme et on est passé dans différentes formes donc depuis la fin du Moyen-Âge. Donc même si le capitalisme, c'est un système économique où il y a accumulation du capital, il existe bien sûr plusieurs types de capitalisme. Par exemple, le capitalisme fordiste à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70 et le capitalisme financiarisé depuis à peu près le milieu des années 70 qui se développe encore aujourd'hui.
Fordiste, Anne, qu'est-ce qu'on entend par là?
Alors, le capitalisme fordiste, donc on l'appelle aussi parfois le capitalisme contractuel, c'est un capitalisme donc qui se développe après la Seconde Guerre mondiale. Bernard Friot, par exemple, remarque qu'en 1946, on a les prémices en France de ce qu'il appelle l'institution communiste du travail qui s'appuie sur la fonction publique et sur le contrat de travail. Donc deux éléments d'institution anticapitaliste, en quelque sorte, du travail, tel qu'il commence à s'affirmer au début du XXe siècle. Et en 1946, donc, est mis en place le régime général de la sécurité sociale, ça tout le monde le sait, dont la gestion est ouvrière. D'ailleurs, on l'a mise en place, entre parenthèses, sans demander leur avis aux économistes, heureusement. Ce sont les travailleurs...
Il faut toujours se méfier des économistes,
oui.
Vous avez raison.
Ce sont les travailleurs qui élisent le directeur de la caisse. Ils gèrent, à l'époque, la moitié du budget de l'État, le tiers de la masse salariale. Et des années 50 aux années 70 va se développer ce que les économistes donc vont appeler un régime d'accumulation fordiste ou contractuel. Donc ce capitalisme contractuel, il est appelé ainsi parce qu'il a surmonté le sous-emploi persistant qui prévalait dans l'entre-deux-guerres grâce à des institutions de médiation du rapport salarial, la négociation collective, les modèles de protection sociale. Donc on avait, si vous voulez, une sorte de contrat entre le monde du travail et le monde capitaliste, enfin des détenteurs du capitaux, grâce aussi à la régulation stricte de la finance de l'époque, à un système monétaire international, lui aussi on en a parlé à un moment donné, le système de Bretton Woods, qui autorisait une large autonomie des politiques monétaires nationales dans le cadre de taux de change qui étaient fixes et ajustables.
Alors ce capitalisme, comment on peut le qualifier? Il a des caractéristiques. Quel est son ADN? Comme l'on dit maintenant, il y a l'ADN partout.
Bien sûr, il a des caractéristiques très particulières, donc qui vont après s'effacer à partir des années 70. Donc ce capitalisme contractuel ou ce régime d'accumulation fordiste, il est caractérisé par un rapport salarial basé sur le partage a priori des gains de productivité. Donc la productivité et la consommation de masse vont aller de pair. Et la négociation collective, dans ce capitalisme-là, elle est centrale. Elle permet une indexation des salaires sur l'évolution de la productivité. Plus la productivité augmente, plus les salaires vont augmenter. C'est un contrat, en quelque sorte.
Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que si la productivité diminue, les salaires stagnent?
La productivité a toujours augmenté depuis au moins la Seconde Guerre mondiale, et même depuis la Révolution industrielle. Donc, on pourrait imaginer quand la productivité diminue, le salaire diminue, mais ce n'est pas le cas, de toute façon. Ce n'est pas le cas. Et puis la recherche, le développement, l'évolution technique permet aussi d'augmenter la productivité du travail.
Ça veut dire que s'il y a productivité, les entreprises dans le pays est plus riche ?
Produisent plus.
Produisent plus. Mais est-ce que pour autant, il y a un accroissement de la richesse ?
Ah ben ça dépend comment, ça dépend où partent les gains de productivité, justement. Voilà. Alors, dans un système fordiste, on a une sorte de partage de ces gains de productivité, partage qui ne va plus du tout avoir lieu par la suite. Hein. On va avoir les gains de productivité qui, dans un capitalisme financiarisé, vont plutôt être ponctionnés ou réorientés vers le capital, et vers le capital financier en l'occurrence. Alors que dans le capitalisme fordiste, donc de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, le modèle social qui est développé par l'État avec une extension de la protection sociale va participer à la stabilisation de la croissance, à la demande auprès des entreprises aussi qui va être relativement stabilisée. On va avoir donc un essor des modes de consommation de masse qui vont donner aussi aux entreprises une prévisibilité pour anticiper leurs demandes effectives et faire concorder l'accumulation du capital avec les aspirations des salariés. Et ce capitalisme contractuel, il se caractérise aussi par un régime fondé sur le crédit. Donc un système de crédit fortement réglementé et un environnement international stabilisé donc par le système de Bretton Woods. Donc quand on a besoin de financer l'économie, on passe par le crédit bancaire. Et ça aussi, cela va évoluer par la suite. Alors ce régime, il va entrer en crise dès les années 60. On va avoir un ralentissement de la productivité aux États-Unis. Donc on a toujours augmentation de la productivité, mais de moins en moins rapide. Les dirigeants vont intensifier le travail, ce qui va conduire aussi à des tensions. On va voir apparaître une spirale inflationniste. Prix-salaire qui va s'installer. Les accords de Bretton Woods vont devenir caducs en 1971. Les économies vont encaisser deux chocs pétroliers. Ça rappelle des choses, ça aussi, en 73, 78. Les entreprises vont de plus en plus devenir multinationales, importantes, grandes, notamment les entreprises américaines, et elles vont concentrer de plus en plus de pouvoir.
Mais ce pouvoir qu'elles concentrent là, qui c'est qui l'a ? Est-ce que le patron, le chef d'entreprise, va pouvoir conserver sa mission première ou est-ce qu'il va s'adapter à une nouvelle donne ? Est-ce qu'il va pouvoir gérer comme on gérait autrefois ? Est-ce qu'il y a une évolution dans le management ?
Bien sûr qu'il y a une évolution dans le management. Ça va impacter les entreprises au premier chef et le rôle de chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, au départ, entre guillemets, c'est comme un chef d'orchestre. Ça organise tous les moyens productifs pour produire le travail, le capital, etc., les ressources. Bon, c'est une sorte de chef d'orchestre ou de capitaine d'équipe de foot ou d'équipe de rugby, enfin comme vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui organise. Il organise la production, il est là pour servir le projet productif de l'entreprise. Et ce rôle va de plus en plus évoluer quand on va sortir de ce capitalisme fordiste et contractuel et qu'on va passer vers un capitalisme financiarisé où là, on va avoir le pouvoir qui va être transféré à ceux qui détiennent le capital au sein des entreprises. Et le chef d'entreprise va devenir petit à petit un acteur qui va devoir être au service des détenteurs de capitaux.
Ça veut dire que le chef d'entreprise n'est plus chez lui, ou plutôt que la fonction de chef d'entreprise arrive à une certaine taille, n'existe plus et aujourd'hui on n'a que des managers ou on pourrait employer même le mot de mercenaire.
Oui, si on veut, mercenaires, des mercenaires au service oui, du capitalisme financier. Alors bien sûr, je parle des grosses entreprises. Hein.
Oui, oui, pas on des parle PME, PME, PMI comme...
Non, non, bien sûr, je parle des grosses entreprises où il y a des actionnaires. Et donc le rôle du patron, entre guillemets, du dirigeant, va évoluer. Le rôle du travail aussi va évoluer.
Bon, on va y revenir, mais je pense qu'il serait presque temps de faire une première pause musicale. C'est la vôtre, hein. C'est vous qui l'avez choisi, je vous laisse l'annoncer.
Eh bien,
j'avais dû la choisir avec un terme anglais en plus.
Non, du tout. Bon. J'ai choisi Bernard Lavilliers, c'est très français.
Ça va, alors.
Le cœur du monde, c'est très français aussi. Un coup de gueule de Bernard Lavilliers sur la guerre économique, la guerre tout court, la destruction de la planète.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort. Celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîné. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Voilà, c'était Bernard Lavilliers, le choix de ma partenaire Anisla. Alors jusque-là, Anne, vous nous avez parlé d'un capitalisme dit fordiste, mais tout évolue, et il en est apparu un autre qui a de tout autres caractéristiques, le capitalisme financiarisé.
Oui, alors à partir des années 60-70, dès les années 60... Ça s'accélère dans les années 70, donc on va voir s'installer une nouvelle forme de capitalisme, c'est-à-dire une nouvelle organisation des rapports sociaux dans un système d'accumulation du capital. Et quelque chose qui est révélateur, c'est qu'on va voir apparaître la notion de marché de l'emploi dans les politiques économiques. Donc il va falloir flexibiliser, diminuer les rigidités qui pèsent sur l'emploi Et cette expression du marché de l'emploi traduit bien l'évolution des représentations que l'on a à partir donc de ces années 60-70 et qui vont bien sûr s'accélérer par la suite. Alors, ce capitalisme, il va être caractérisé à partir des années donc 1980 par l'individualisation du contrat salarial, qui va faire exploser aussi les négociations collectives. L'information numérique, les externalités de réseau vont accentuer le phénomène en recomposant l'organisation des entreprises. On va aussi externaliser des activités et on va développer la sous-traitance. Tout cela participe de ce mouvement vers un nouveau type de capitalisme. Donc on va avoir des politiques actives de l'emploi, axées sur le marché en permanence. C'est le marché de l'emploi, il faut adapter l'enseignement au marché, etc. Tout ce discours qui va apparaître dans ces années-là et qu'on considère aujourd'hui comme complètement naturel, alors que dire que on a un marché de l'emploi. Enfin, quand on écoute les mots, ça veut dire que le travail est une marchandise, hein, on le dit. Et donc que les individus qui travaillent sont quasiment aussi des marchandises. Donc le marché du travail désigne en priorité la confrontation entre des offres et des demandes d'emploi. Et cette confrontation aboutit au chômage si le marché n'est pas assez flexible. Et c'est en ce sens que vont, du reste, les rapports d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole de 2003 ou de 2020, ou de Michel Virville de 2004, Pierre Cahuc, bon, etc. Donc, dans cette vision, le contrat de travail est perçu comme une rigidité qui empêche les mécanismes de marché de retourner à l'équilibre et à l'optimum, ou du moins de s'en approcher. Donc le contrat de travail est trop rigide, le travail est une charge. Alors quand on dit que le travail est une charge, est un coût, ça aussi, ça veut dire qu'il va falloir diminuer cette charge. Ça empêche la création d'emplois, voire la création d'entreprises. La sécurité sociale, c'est un luxe qui, par son coût, donc, altérerait la compétitivité de l'économie nationale. Et au sein de l'entreprise, la rentabilité va prévaloir sur la finalité productive, sur le projet productif de l'entreprise.
De toute façon, toutes les entreprises ont quand même la recherche de la rentabilité depuis toujours.
Oui, mais c'était la recherche d'une rentabilité. Ce n'est pas la recherche du maximum de rentabilité, du maximum de profit. Bien sûr qu'une entreprise, pour vivre, elle doit être rentable. Mais ça ne veut pas dire que l'obsession, c'est la maximisation du profit.
Vous voyez, on pose aujourd'hui tout à son maximum, donc on est un peu dans cette société d'accélération aussi.
Oui, mais oui, on est dans un capitalisme financiarisé et qui traduit aussi la façon de concevoir la société dans son ensemble. L'économie, elle n'est pas, c'est pas un morceau séparé du reste de la société.
Des fois, on se pose la question. Alors, cette économie, il faut qu'elle tourne. Bon, pour ça, il faut y mettre c'est comme la voiture, il faut y mettre de l'essence et donc là, il va falloir financer.
Alors là aussi, on va avoir une évolution importante, surtout à partir des années 80, on va voir se développer les politiques monétaristes. D'ailleurs, Thatcher avait dit à Mitterrand qu'il était que c'était le plus grand monétariste qu'elle avait rencontré. Mais bon, ça c'est une anecdote. Donc ces politiques monétaristes, c'est-à-dire la vision monétaire orthodoxe en économie, une vision parmi d'autres, c'est toujours pareil, les politiques monétaristes ne sont pas les seules politiques monétaires possibles. Et dans ces politiques monétaristes, l'objectif principal, c'est la lutte contre l'inflation. C'est ça. C'est vraiment... on pourrait utiliser la politique monétaire pour lutter contre le chômage, par exemple, pour organiser le virage écologique, par exemple. Non, là, l'objectif, ça sera lutter contre l'inflation. La monnaie doit être neutre, elle ne doit pas intervenir dans l'économie. Et donc, il ne faut absolument pas que l'inflation des prix augmente. Or, qu'est-ce que c'est qui fait augmenter les prix ? Ce qui fait augmenter les prix, pour les monétaristes, c'est quand on développe les moyens de paiement, la masse monétaire, les moyens de paiement des individus. Et ces moyens de paiement, comment on les augmente ? On les augmente grâce au crédit. Parce que, par exemple, si vous avez envie de vous acheter une voiture, que vous allez voir votre banquier et que vous lui dites « voilà, j'ai besoin de 10 000 euros », ou 20 000, enfin, peu importe, il va vous dire, ben voilà, je vous fais un crédit. Donc, il crée des moyens de paiement, vous voyez, comme ça, il les crée de toutes pièces. Donc, ça, c'est le crédit. Et le crédit, pour les monétaristes, c'est inflationniste. Donc, il va falloir essayer de développer le financement qui ne passe plus par le crédit bancaire, et qui passe directement sur les marchés financiers. Donc, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va financiariser les dettes d'État. C'est-à-dire qu'on va transformer les dettes des États en titres financiers. Et quand vous regardez les courbes des dettes, c'est à partir de ce moment-là que les dettes explosent, que les dettes des États explosent. Les États ne peuvent plus se financer auprès de la Banque centrale. Les États ne doivent pas favoriser le crédit, ils doivent aller directement sur les marchés financiers, entrer en concurrence entre eux pour obtenir des moyens de paiement. Et là aussi, ça va participer à la financiarisation de l'économie. Donc, on a une politique monétaire qui se financiarise, on a des dettes qui sont financiarisées, qui sont titrisées, on dit, dans un langage un peu plus technique. On bascule dans un capitalisme financiarisé et les entreprises, elles aussi, vont se financiariser. Les stratégies vont devenir financières, c'est-à-dire que l'objectif principal de l'entreprise, ça va devenir la valorisation actionnariale. Donc, l'idée, c'est pas de produire le meilleur produit, le meilleur service, etc., etc. C'est d'orienter son projet productif dans la valorisation de l'action. Donc, le but, c'est que l'action augmente, l'action qu'on échange en bourse. Et en faisant cela, en financiarisant les stratégies, c'est-à-dire en alignant la stratégie des entreprises sur les marchés financiers, on va transformer les entreprises en marchandises qu'on peut acheter et qu'on peut vendre sur les marchés financiers, en objet liquide, en quelque sorte.
Ça veut dire quand même que pour que l'entreprise soit vendue et qu'on maximise le profit, il faut qu'elle ait une rentabilité, il faut qu'elle travaille bien, il faut qu'elle fournisse des produits, des services tout à fait performants.
Non, pas forcément. Pas forcément. Par exemple, quand vous avez des bulles financières, si je prends par exemple la bulle financière qui s'est produite à partir des années 1990, qui a explosé au début des années 2000, ce qu'on appelait la bulle Internet. C'est-à-dire qu'on avait des actions d'entreprises sur des entreprises qui fonctionnaient sur l'Internet, les nouvelles technologies. On avait des actions qui pouvaient augmenter de 200% par an sur des entreprises qui étaient quasiment en faillite. Donc, il est possible de ne pas être rentable et d'avoir des actions qui sont rentables. Bon, bien sûr, normalement, ce n'est pas possible, mais ça peut arriver. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, on va toujours chercher à augmenter la valeur de l'action. Donc, on va avoir des stratégies. Par exemple, il y a une convention sur les marchés boursiers. Bon, théoriquement, il n'y a aucun pilier qui explique ça, mais il y a une convention qui dit pour augmenter les actions, il suffit de baisser la masse salariale. Donc même si vous avez une entreprise qui produit, qui vend ses produits, qui est rentable, etc., mais si vous voulez augmenter encore plus la valeur des actions, il faut diminuer la masse salariale, c'est-à-dire soit licencier, soit baisser les salaires. Ça, c'est une des stratégies. On va avoir d'autres stratégies qui vont être de développer la sous-traitance, par exemple, hein, de se défaire de certains... C'est ce qu'a fait Airbus, hein, par exemple, c'est ce que font des grosses entreprises comme Airbus. Donc, on a des stratégies qui ne sont pas liées directement à la production et à la production bien faite, etc., mais qui sont liées donc, à cette action qui doit... tout le temps augmenté. Alors, vous voyez que là, on a un transfert aussi qui va se produire, un transfert des risques tous les risques vont passer sur le monde du travail. C'est le travail qui est la variable d'ajustement.
Alors, on parle beaucoup de tout ça, mais il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est l'homme, parce qu'a priori, tout ça est un système qui devait être au service de l'humain et de l'humanité, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Si je comprends bien, il a été rapté, il y a eu un rap de quelques-uns sur ces outils, et les autres en sont un peu, alors le mot est certainement très exagéré, vous me reprendrez, en sont un peu des esclaves.
Oui, c'est vrai qu'au départ, tous les systèmes économiques du reste doivent servir les besoins humains. Et c'est vrai que ça a été nécessaire à un moment donné dans l'histoire d'accumuler du capital, de produire plus, etc. Mais comme tous les systèmes, à un moment donné, il y a des déviances qui se produisent. Il y a les systèmes en question entrent en crise et il faut essayer d'imaginer le système qui va suivre. Et là, c'est vrai qu'on a un système de capitalisme financiarisé où les travailleurs sont complètement asservis au travail. La dette permet de les asservir encore plus à ce travail. On a des crises financières qui se multiplient. Si on regarde, des crises financières, il y en a toujours eu. Mais si on regarde les crises financières depuis les années 90, il y en a au moins une par an tout le temps. Enfin, ça se multiplie de plus en plus. Elles sont de plus en plus fréquentes. Elles sont de plus en plus fortes. Donc, c'est bien le signe que le capitalisme est en crise. Mais ça peut durer, la crise.
Oui, alors, voilà. Est-ce que la crise va durer, se guérir, on va continuer comme avant? Donc, on se dit qu'on en est ad vitam aeternam à vivre avec ce système économique, financier, de capitalisme financiarisé, ou est-ce que ça peut accoucher d'autres choses? Alors, est-ce que les règles peuvent être du jour au lendemain? C'est tellement complexe, cette architecture. Est-ce qu'on peut imaginer que le capitalisme disparaisse au profit d'autre chose qu'on ne saurait pas nommer aujourd'hui?
Alors oui, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a plusieurs questions. D'abord, le capitalisme n'a pas toujours existé, il n'existera pas toujours. Donc un jour, ça sera fini. Mais le problème, c'est que la planète risque d'être finie avant. C'est un peu...
Oui, ça, c'est, là, je le crois sans peine. Hein.
Voilà, donc, à mon avis aussi...
La planète, non, mais la civilisation, oui, la planète sera toujours là.
Oui, la planète, oui, mais les possibilités de vie humaine sur la planète, je veux dire plus exactement, risque de s'arrêter avant le capitalisme. Donc, certes, le capitalisme ne va pas durer ad vitam aeternam, mais il faudrait qu'il s'arrête avant que les conditions de vie sur la planète s'arrêtent. Seconde question, est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Alors là, j'ai envie de répondre un peu à côté, mais bon. En 1947, s'est créée une association qu'on a appelée l'Association du Mont Pèlerin, qui existe toujours, qui est en Suisse. C'était une association d'économistes libéraux, néolibéraux, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'économie libérale. Et ces économistes, on leur disait, mais vous êtes fous, quoi, l'économie libérale, jamais vous allez y arriver, mais jamais vous imaginez. Tout ce qu'il faut faire. 1947, je vous rappelle, 1946, la sécurité sociale, etc., etc. On a un mouvement qui n'est pas du tout d'économie libérale à cette époque. Et on disait à ces économistes, Hayek, Friedman, etc., vous êtes fous. Et pourtant, c'est eux qui ont eu raison. Petit à petit, le libéralisme économique s'est imposé. Donc je pense que petit à petit, on peut aussi mettre en place des règles, des pratiques qui vont permettre de sortir de ce capitalisme et de sortir par le haut. Par le bas, pas de sortir chaque fois par une guerre, une crise climatique, une crise environnementale,
etc. À ceci près que
etc.
ceux qui tiennent les gouvernes et les manettes du système en tirent profit. Donc je ne vois pas pourquoi ils s'effaceraient. Ou en tout cas, pas facilement.
Non, ils ne vont pas s'effacer facilement.
Ça veut dire qu'il y a une révolution qui s'efface.
Non, et voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément une révolution. Ce serait bien aussi qu'on arrête de voter pour les partis qui prônent ce type d'économie. Qu'il faudrait que les électeurs lisent un peu les programmes pour voir ce qui est dit véritablement.
Il faudrait déjà qu'ils lisent tout court et après, quant à lire les programmes et y réfléchir, c'est un peu autre chose.
Oui,
c'est un peu ambitieux. Nous sommes là dans un monde idéal.
Oui, mais
l'électeur qui s'intéresse à son sort et à la politique, ce serait fabuleux.
Oui, mais il y a quand même, moi je ne sais pas, il y a quand même des prémices, il y a quand même des choses positives qui se créent. Il y a des ONG, il y a des associations comme Oxfam ou le CADTM qui donnent des pistes. Moi je travaille avec des étudiants, donc j'ai des étudiants tout le temps. Je vois bien que chez les jeunes, il y a des choses qui naissent, il y a des mouvements qui apparaissent, il y a des idées. Non, moi je ne suis pas complètement pessimiste, on n'est pas obligé de passer par la révolution.
Le tout, c'est que tout ça se structure. Et le temps de se structurer face à un monde aujourd'hui qui part un peu... j'allais employer un terme que j'aurais regretté après, mais qui est en déliquescence quand même, à tout point de vue, dont on ne voit pas trop comment on peut le remettre dans les rails. On est dans l'irrationalité complète, avec des dirigeants qui font absolument n'importe quoi, n'importe où, sans du tout le sens de l'autre, de l'humain, de la planète, un certain sens de la responsabilité, de l'altérité, c'est fini.
Mais oui, mais là, je ne peux pas répondre.
Ah voilà,
vous ne pouvez
plus répondre.
Et non, je ne peux plus répondre parce que oui, certes, on peut faire ce constat extrêmement pessimiste,
Mais extrêmement réaliste, surtout.
Réaliste, mais on peut aussi essayer de voir les mouvements qui apparaissent, les choses qui apparaissent.
Oui, mais il y a des choses intéressantes.
Voilà, il peut y avoir des mouvements sociaux, il peut y avoir aussi des élections qui, enfin, je ne sais pas, je suis peut-être trop optimiste sur le genre humain, mais je parie, moi, sur l'intelligence humaine pour sortir de ce miasme et de ce... Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est vrai que pouvoir économique et pouvoir politique sont fondamentalement liés aujourd'hui.
Oui, j'en ai peur. Et économique et politique, on a l'impression un peu que c'est quand même l'économie qui a pris le pas sur le politique.
Oui, qui dicte un peu...
Voilà.
Oui, qui dicte en disant, ce sont des lois, on ne peut pas aller au-delà. Eh bien non, l'économie, ce n'est pas des lois.
Bon, une petite pause musicale, on va mûrir tout ça, on va y réfléchir, on va en reparler. Alors moi, je vous propose une chanson politique, un peu... dédié à tous ces politiques qui prétendent nous gouverner et dont on regarde le spectacle de façon un peu de plus en plus détachée, si j'en crois les 54% de gens qui ne sont pas allés voter en se disant de toute façon à quoi ça sert, on prend toujours les mêmes et on recommence, et puis ils ont quand même un peu l'habitude d'aller à droite, à gauche, enfin on ne sait plus trop où ils se situent. Alors je vous propose d'écouter ce qu'en pense Jacques Dutronc dans sa chanson « L'opportuniste ».
Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Voilà Jacques Dutronc qui illustre, me semble-t-il, assez parfaitement une situation très actuelle. La chanson n'est pas neuve, mais c'est comme Bossuet, ça fonctionne toujours et le monde n'a pas vraiment changé. Je vous propose de nous intéresser un peu à ce qui se passe en Occitanie, dans notre région, et de regarder un peu ce qu'il en est des déposants de brevets. C'est quand même aussi une espèce de thermomètre qui permet de mesurer... et la créativité, l'activité industrielle. Alors l'INPI a publié, Institut National de la Propriété Industrielle, vient de publier le palmarès 2021 de déposants de brevets. 678 brevets proviennent de l'Occitanie. Alors qui trouve-t-on là-dedans ? Ben Airbus, ça ne vous étonnera pas. Safran et l'Université de Montpellier qui sont en tête. 678 déposants, c'est quand même moins qu'en 2020. Dans le top 10, je vous l'ai dit, Airbus Safran, Liber aussi, Aerospace, Toulouse SAS, trois entreprises de taille intermédiaire, Latéco Air, Latelec, qui sont tous les deux dans l'aéronautique, et Sigfox, qui est un opérateur télécom de l'Internet des objets. Et puis, quatre établissements de recherche, d'enseignement supérieur, d'établissements d'État, Université de Montpellier, Université Toulouse 3, Paul Sabatier, École nationale supérieure de chimie de Montpellier et l'Institut national polytechnique de Toulouse, parce que dans les universités, il y a des chercheurs, et puis ils finissent toujours par trouver quand même un jour. Au niveau national, l'avionneur Airbus confirme sa 7e position parmi les entreprises françaises avec un total de 309 demandes de brevets publiées. Et à titre de comparaison, le groupe Safran arrive en tête du classement avec 1037 demandes de brevets publiées à l'INPI en France. Ils ont pu en déposer aussi à l'étranger. L'an dernier, en région Occitanie, l'équipementier Continental n'était pas loin d'Airbus puisqu'il avait déposé 136 demandes de brevets. L'entreprise ne figure plus dans le top 10 en 2021. En revanche, la TECOR se démarque une nouvelle fois cette année en se classant première ETI d'Occitanie. Alors ETI comprenait entreprise de taille intermédiaire. Et puis le secteur public n'est pas en reste, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les chercheurs ont bien travaillé, 22 demandes à l'université de Montpellier qui devance l'université de Toulouse 3 Paul Sabatier qui n'a fait que 19 demandes et l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier a déposé 11 demandes de brevets. Alors on commence à déposer une demande de brevet et puis après que ce soit passé au filtre des spécialistes de l'INPI de savoir si véritablement il y a matière à brevet, tout cela donne lieu à un brevet enregistré ou pas. Voilà, donc on ne travaille quand même pas trop mal en Occitanie. On a quelques entreprises de pointe. On peut s'en féliciter, Anne, non ?
Oui, bien sûr, on peut s'en féliciter. Plus on dépose de brevets, plus on dépose de demandes de brevets, plus ça dénote une innovation, une recherche. Alors, il faut quand même souligner que le brevet, hein, c'est lorsqu'il est reconnu. Donc, après la demande et toutes les procédures administratives, c'est une reconnaissance d'un monopole. Hein. Personne ne peut utiliser ce brevet, sauf on peut le négocier financièrement, etc. Et alors certes, c'est un bon thermomètre de l'innovation, mais en même temps, il y a aussi un autre aspect du brevet qu'il ne faut pas oublier, c'est que le brevet, ça permet de couper l'accès donc à cette découverte aux autres. Or, le savoir, la recherche, etc., c'est aussi une addition, c'est surtout une addition de savoir et il faut avoir accès aux autres, au savoir des autres pour pouvoir développer son propre savoir. Et il faut bien voir que cette politique de brevet, là aussi, elle s'est accélérée dans les années 70. Avant, on considérait qu'il ne fallait pas trop de brevets et que la coopération était aussi quelque chose qui permettait de développer l'innovation, etc. Donc, pour vous donner un autre exemple, hein, Roosevelt, dans les années 30, a fait une politique contre les brevets, hein, pour qu'il y ait le moins de brevets possible, justement pour favoriser la coopération des entreprises entre elles dans la recherche, des entreprises, des collectifs publics, etc. Donc certes, le brevet, c'est bien, mais chaque fois, il faut faire attention. Hein, chaque fois, il y a les deux aspects qu'il faut aussi regarder. C'est aussi un moyen d'empêcher l'autre, un moyen de bloquer la concurrence.
Oui, ou un moyen de se faire rémunérer son idée. Voilà. Alors, on a parlé des grandes entreprises. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui déposent. Hein. Il y a beaucoup d'inventeurs indépendants. Et c'est vrai que le brevet, quand même, une garantie que là, on ne va pas se faire piller son idée par un gros. Là, les brevets déposés par les grandes entreprises, bien sûr, ce sont les salariés, hein, de ce qu'on appelle des inventions de mission qu'ils font dans le cadre de leur contrat de travail. Après, l'indépendant, il y a toujours des géos trouve-tout un peu partout.
Oui, bien sûr.
Qui ont besoin d'être protégés parce que sinon, ils vont se faire piller. Alors, évidemment, déposer un brevet ici, c'est pas la peine d'aller en déposer en Chine. Hein. Les Chinois sont les rois de la copie. Il n'y a pas qu'eux, d'ailleurs. Mais enfin, bon, pour ça, les Chinois, ils n'ont pas été mauvais. Donc, le brevet n'a qu'une protection relative.
Oui, et puis en plus, il y a brevet sur une invention. On fabrique quelque chose, un outil, une technique, voilà. Et il y a brevet sur une découverte. Hein. Par exemple, vous pouvez mettre des brevets sur le génome humain. Et le génome humain, personne ne l'a fabriqué. C'est plus une découverte que, vous voyez. Et là, c'est un des travers des brevets. Et il y a parfois des chercheurs, je pensais à un jeune chercheur dont je ne me rappelle plus le nom, dans les années 90-2000, qui avait trouvé quelque chose par rapport au SRAS, et qui a refusé d'être rattaché au brevet. Il a dit non, c'est mon travail de découvrir, et je ne veux pas de propriété sur mon savoir. Il y a aussi à côté des brevets, toute une série de réseaux de chercheurs où ils mettent leurs connaissances en commun, justement pour pas que ce soit brevetable.
Oui, c'est une démarche intellectuellement et philosophiquement extrêmement intéressante.
Voilà, il faut aussi réfléchir à tout ça avec des philosophes. Je suis d'accord.
Et voilà, on va convoquer un philosophe dans nos émissions. Nous avons commencé, recommencé les émissions de philosophie à la rentrée avec une équipe de philosophes, mais on pourra les inviter un jour pour
faire
une émission commune et évoquer ça ensemble. Eh bien, nous sommes quasiment, et la transition est facile, dans la culture et le conseil culturel qui clôt presque notre émission, nos recommandations de lecture, de films, d'expos, de magazines, etc. Anne.
Alors moi, j'ai deux propositions à vous faire. Alors, d'abord, très économique, dans le prolongement de l'émission d'aujourd'hui, c'est un ouvrage dirigé par Michel Aglietta en 2019 qui s'appelle « Capitalisme, le temps des ruptures » chez Odile Jacob. Et donc, qui va reprendre cette définition du capitalisme, comment ça a évolué, comment le capitalisme a aujourd'hui pour centre nerveux la finance, dont la raison d'être est de faire de l'argent avec l'argent, qui est régulièrement secouée par des crises, qui fait peser, du reste, une menace d'instabilité sur nos sociétés. Et qui est responsable, ce capitalisme qui est responsable donc de l'explosion des inégalités sociales, de la destruction des ressources planétaires, du climat, etc. Donc il met en danger la survie des générations futures. Donc dans cet ouvrage, ils montrent, ils ne vont pas parler de d'autres systèmes que le capitalisme, mais de civiliser le capitalisme, rationaliser le capitalisme, etc. Alors, j'ai aussi un autre conseil de lecture, puisqu'on part sur la plage.
Oui,
alors j'ai choisi
des choses plus légères. Plus,
des choses plus légères. Alors, moi, je vous conseille tous les polars écrits par Jacques Lavergne.
vous voulez mettre ma modestie à rude épreuve.
Voilà, aux éditions Cairn, à la collection du Noir au Sud, pour la plupart, pas tous. Donc, ce sont des histoires qui sont... Moi, j'en ai lu plusieurs déjà, bien ficelées, qui se passent souvent dans le sud de la France, en Catalogne, en Camargue, etc. Donc, Échec et meurtre, Camargue blanche et série noire, Barcelone, Alice simple, Le saut du diable, etc. Voilà mes conseils de lecture pour cet été.
Merci Anne, c'était la rubrique spéciale copinage. Moi, je vais vous parler de Marc-André Seulos, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un universitaire, qui a écrit « L'origine du monde », qui est sous-titré « Une histoire naturelle du sol à l'attention, à l'intention de ceux qui le piétinent ». Et c'est chez Actes Sud. Marc-André Seulos est un professeur au Muséum d'histoire naturelle. Il enseigne dans plusieurs universités en France, à l'étranger. Il édite des revues scientifiques internationales. Il a fait des ouvrages beaucoup publiés chez Actes Sud. Ses recherches portent sur les associations à bénéfice mutuel. Vous connaissez ça, c'est les symbioses qui impliquent les champignons. Et ses enseignements portent essentiellement sur les microbes, l'écologie et l'évolution. Et dans ce livre qui est abondamment illustré très finement par Arnaud Raphaëlian, il nous explique que le sol, que nous piétinons tous les jours, il faut bien reposer sur quelque chose, n'est rien moins que l'origine du monde et pas en ce qu'il héberge, la plus grande fraction de la biodiversité, la plus grande diversité des mécanismes qui permettent le fonctionnement des écosystèmes. Et nous dit Marc-André Seulos, ce n'est que très récemment que nous avons pris conscience de son importance et surtout des menaces qui pèsent sur lui. Et donc il nous propose un voyage, un périple souterrain pour découvrir le sol et mieux le comprendre. Il y a de l'humour, il y a de la faconde, c'est de la simplicité aussi, des observations banales, mais au final qui se révèlent profondes. C'est un livre savant mais qui n'est jamais pédant, qui est accessible à tous. C'est un vrai bonheur de lecture parce qu'il nous parle de choses simples mais de choses pratiques et que nous rencontrons tous les jours. Alors en ville, on a un peu moins l'habitude, on a plus l'artificialisation des sols, le bitume, mais dès que vous voyez un peu de terre, si vous saviez tout ce qu'il y a là-dedans, la richesse qui peut s'y trouver et les risques aussi qu'on fait courir. C'est un vrai bonheur d'engranger des connaissances essentielles, donc précipitez-vous sur ce livre qui se lit facilement. Il y a des courts chapitres, on peut passer de l'un à l'autre, on peut en zapper certains, y revenir. C'est extrêmement bien fait, c'est un universitaire, il sait enseigner et il sait intéresser son lecteur ou ses étudiants à son enseignement. Donc je vous le rappelle, Marc-André Solos, L'origine du monde, chez Actes Sud. Et puis également, j'ai regardé il y a deux soirs, je crois, avec beaucoup de plaisir, même si on connaît le sujet, et surtout comme moi qui fais beaucoup d'émissions sur la Terre et sur l'environnement, à travers notamment d'Arcania, que nous faisons ici. J'ai regardé sur Arte, Insecticide, comment l'agrochimie a tué les insectes. Vous pouvez aller, parce que l'avantage d'Arte, c'est un peu comme chez nous, c'est une bibliothèque de podcasts. Allez-y, c'est absolument passionnant et ça a été écrit à partir du livre d'un journaliste du Monde, Stéphane Foucard, qui est au Seuil, qui a publié « Et le monde devint silencieux ». Stéphane Foucard, « Au Seuil, le monde devint silencieux ». Alors c'est passionnant parce que là aussi ça nous parle de nous, ça nous parle de ce capitalisme financiarisé, ça nous parle de ces grandes firmes, hein, BASF, Syngenta, voilà, vous les connaissez toutes, elles ne sont pas très nombreuses, qui ont verrouillé le paysage agricole, qui ont verrouillé les pratiques agricoles et qui les défendent de bec et ongle. Quand je dis qu'ils les défendent, il y a je n'ai pas lu le livre de Foucard, mais ce sera fait sous peu, mais on voit sur Arte comment ces entreprises, à travers des lobbyistes, voire même des gens qui interviennent de façon un peu plus directe, voire un peu plus violente, comment on essaye de museler les scientifiques, comment on essaye d'imposer sa vérité pour continuer à faire les super profits de ce capitalisme financiarisé dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc allez-y, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il faut quand même savoir dans quel monde on vit et comment on pourrait peser sur lui pour le transformer. Et puis, le metteur en scène britannique, je vais en dire un mot, Peter Brook, est mort, un monsieur d'âge mûr. Hein, il avait 97 ans, comme disait mon grand-père adoré. Il était d'âge de faire un mort, certes, mais ça a été un grand artiste qui a marqué les plus importantes phases de l'aventure théâtrale en France depuis 1974. Et il laisse des spectacles uniques montés dans son théâtre des Bouffes du Nord, comme Le Songe d'une nuit d'été, Le Mahabharata ou La Tempête. Donc Peter Brook, on lui dit adieu et on espère que la terre lui sera légère. Et puis une annonce, la première représentation du Così fan tutte de Mozart, la nouvelle création d'Opéra éclaté, qui s'est mise en scène par Éric Pérez, avec à la direction musicale Gaspard Bricout, en coproduction avec l'Opéra de Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne, on l'appelle comme ça, et l'Opéra de Massy. Ce sera le 16 juillet 2022, ça approche, ce sera 21h30, Cour des Rouges. Et alors où est la Cour des Rouges? Eh bien à Sorèze, dans la cité de Sorèze, et dans le cadre des soirées musicales, donc samedi 16 juillet 2022, Così fan tutte à Sorèze. Voilà, Anne, nous sommes arrivés au bout de l'aventure. C'était Economica, donc une émission de Anisla et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation pour sa dernière Victor, supervisée par Tiffaine Lemaine. Ils nous ont fait une belle équipe. Merci à eux deux. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie. Quant à nous, nous nous retrouverons à la rentrée pour une nouvelle édition d'Economica, notamment, mais vous retrouverez l'ensemble des émissions d'Esprit Occitanie et de la grosse quarantaine d'animateurs, avec quelques surprises pour la rentrée, quelques nouvelles émissions toutes fraîches sorties de notre imagination. D'ici là, ne lâchez rien. Bonnes vacances à toutes et à tous.